Aujourd'hui, on va explorer une analyse historique qui, franchement, démolit complètement notre façon de concevoir le pouvoir, le statut social et la réussite.
Ouais, c'est vraiment le mot, ça démolit tout.
Bah oui, parce que, imaginez un peu des textes anciens, ceux-là même qui ont fondé des civilisations entières, naturellement, on s'attend à y trouver une sorte de manuel de bonne conduite, pas vrai ?
Exactement. Des petites règles morales bien sages.
Voilà. Une série de règles bien ordonnées pour devenir un citoyen modèle, respecté par ses pairs. Mais en réalité, quand on examine le contexte brut du premier siècle, c'est un choc frontal.
C'est carrément subversif, oui.
Totalement. Alors, nous plongeons aujourd'hui dans les recherches du docteur Craig Kenner, plus précisément son analyse fascinante de la leçon 15, qui couvre les chapitres 19 à 22 de l'Évangile selon Matthieu.
Une période charnière dans le texte, au passage.
Absolument. Et petite précision avant de commencer, attention, le but ici n'est absolument pas de faire de la théologie ou de prendre parti sur un plan politique. Notre mission, c'est de comprendre les mécaniques historiques, les faits, les contextes de l'époque.
Tout à fait, on reste sur l'analyse factuelle.
Bon, décortiquons tout ça, car ce qu'on trouve dans ces textes, c'est une déconstruction tellement radicale des hiérarchies humaines qu'elle devait paraître complètement folle à l'époque. Et honnêtement, elle bouscule encore totalement notre logique moderne.
Absolument. Et pour saisir l'ampleur de cette folie apparente, bah, il faut planter le décor. Nous sommes sous l'occupation romaine, en Judée.
Une ambiance bien tendue.
Oh que oui, c'est une vraie poudrière politique. Et la société est hyper stratifiée. Tout, absolument tout fonctionne autour de l'honneur, de la pureté rituelle et bien sûr du compte en banque.
L'argent régnait déjà en maître, quoi.
Comme toujours. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'enseignement qui est analysé par Kenner, il ne flotte pas dans des concepts purement abstraits. Il attaque le système en utilisant des réalités très crues.
Les choses du quotidien.
Voilà, les impôts romains, les contrats agricoles, les stratégies mariage. C'est une critique structurelle impitoyable du système.
Et ça commence dès le recrutement, en fait. Parce que si on veut lancer un mouvement de fond, renverser des valeurs établies, on a besoin d'influence. On a besoin de financement.
C'est le nerf de la guerre.
Et justement, l'analyse revient sur cet épisode assez dingue où un jeune homme, extrêmement riche et puissant, se présente pour rejoindre le mouvement. Logiquement, n'importe quel leader politique ou social lui déroulerait le tapis rouge.
Ah bah, c'est le donateur parfait, on signe tout de suite.
Exactement. Mais là, le leader érige un mur de briques. Il exige que cet homme vende absolument tout ce qu'il possède et donne tout aux pauvres.
C'est radical.
Moi, ça m'a tout de suite fait penser au camp d'entraînement des forces spéciales d'aujourd'hui.
Ah oui, l'analogie est bonne.
Tu sais, ces instructeurs qui hurlent sur les recrues le premier jour, sous la pluie glaciale, pour les pousser à abandonner immédiatement. L'objectif, c'est de créer un obstacle insurmontable pour ne garder que ceux qui sont psychologiquement incassables.
C'est une excellente comparaison, vraiment. Historiquement, c'était d'ailleurs une technique pédagogique très prisée dans l'Antiquité, de tester comme ça ses disciples.
Ah oui, hein, c'était courant.
Très courant. L'analyse de Kenner souligne que les grands philosophes grecs faisaient exactement la même chose. Antisthène, par exemple.
Le fondateur du cynisme.
C'est ça. Il repoussait physiquement Diogène avec un bâton pour voir s'il allait insister.
À coup de bâton, rien que ça ?
Littéralement. Et quand Diogène est devenu maître, à son tour, il a ordonné à Cratès de jeter toute sa fortune à la mer. Pareil pour le philosophe stoïcien Zénon, qui prenait un malin plaisir à humilier publiquement les jeunes aristocrates arrogants.
Donc, cette exigence de tout quitter, de vendre ses biens, c'était pas du tout une métaphore poétique ?
Pas du tout. C'était un test de loyauté viscérale. Une épreuve du feu.
D'accord, ce qui nous amène à cette phrase super célèbre, mais que j'ai toujours trouvé hyper bizarre et tellement mal comprise. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans ce royaume.
Ah, la fameuse aiguille.
Ouais, parce que j'ai entendu je ne sais combien de fois qu'il existait une petite porte dérobée dans les murailles de Jérusalem, une porte appelée le chat de l'aiguille, et que les chameaux devaient s'y glisser à genoux en se déchargeant de leurs bagages.
Oui. Alors là, il faut vraiment tordre le cou à cette légende urbaine une bonne fois pour toutes.
C'est faux, on est d'accord.
Totalement faux. Les recherches historiques sont formelles sur ce point. Cette histoire de porte secrète a été inventée de toutes pièces au Moyen-Âge.
Sérieusement ? Mais pourquoi ?
Bah, très probablement par des commentateurs qui essayaient d'adoucir un peu le texte pour ne pas vexer leurs riches mécènes.
Ah, ne vous inquiétez pas, monseigneur, c'est juste une petite porte, vous pouvez passer si vous baissez la tête.
C'est exactement ça. Alors qu'au 1er siècle, le chat de l'aiguille, bah, c'est le petit trou dans une véritable aiguille à coudre.
Et le chameau ?
Et le chameau, c'est l'animal terrestre le plus énorme, le plus massif de la région. L'image est volontairement comique, c'est grotesque même.
Donc ça désigne une impossibilité absolue.
Voilà, c'est une figure de style antique classique pour illustrer une impossibilité littérale. L'idée est hyper claire, le confort et le pouvoir rendent le changement de paradigme impossible sans une transformation intérieure radicale.
C'est hyper fort. Et pourtant, l'histoire montre quelques exceptions quand même. L'analyse mentionne des sortes de chameaux qui ont réussi à passer à travers l'aiguille, si on veut. Des élites qui ont fait le grand saut.
Exactement. Il y a des cas fascinants. Celui de Joseph d'Arimathie, par exemple, est saisissant.
C'était un gars important, lui.
Très important. Il était membre du Sanhédrin, donc vraiment l'élite dirigeante religieuse et politique, et c'était un homme extrêmement riche.
Et il fait quoi exactement ?
Eh bien, il offre son propre tombeau familial, flambant neuf, à un homme condamné et exécuté par l'Empire romain pour trahison.
Waouh ! C'est pas juste un geste charitable, c'est un suicide social.
Pire que ça, Joseph ne risquait pas seulement sa réputation. Dans l'Empire romain, s'associer publiquement à un rebelle crucifié, c'était risquer d'être accusé de complicité. Il risquait la confiscation de tous ses biens, voire l'exécution pure et simple.
Donc ces rares exceptions prouvent à quel point le coût de l'engagement était vraiment exorbitant. Il jouait sa vie.
Exactement.
D'accord, mais posons-nous deux secondes. Si le prix d'entrée est le sacrifice d'une vie entière, le sacrifice de ses biens, de son statut social, de sa sécurité, la logique la plus basique voudrait que la récompense finale soit proportionnelle à ce sacrifice, non ?
C'est ce qu'on se dit, oui.
Bah oui, c'est le fondement de la justice humaine. On est payé à la hauteur de son effort. Or, le texte détruit complètement cette attente avec la fameuse parabole des ouvriers de la vigne.
Ah, celle-là, elle pique un peu.
Elle pique énormément. Plantez un peu le décor de cette histoire pour ceux qui nous écoutent.
Alors, imaginez un propriétaire foncier qui embauche des ouvriers agricoles très tôt le matin, à 6 heures. Ils se mettent d'accord sur le salaire standard de l'époque, un denier pour la journée entière de travail.
Jusque-là, tout va bien. Contrat classique ?
Contrat très classique. Sauf que le propriétaire retourne sur la place du marché plusieurs fois dans la journée. Il embauche de nouveaux ouvriers à 9h, à midi, à 15h. Et, truc incroyable, il en embauche d'autres à 17h.
Juste une heure avant la fin de la journée de travail.
C'est ça, une heure avant la tombée de la nuit. Et le clou du spectacle, c'est au moment de la paie. Il commence par payer les derniers arrivés. Et ceux qui n'ont travaillé qu'une seule petite heure reçoivent un denier entier.
C'est là que ça coince complètement pour moi. Parce que les premiers, ceux qui ont trimé pendant 12 heures, sous le soleil écrasant du Moyen-Orient, ils s'avancent en s'attendant naturellement à recevoir beaucoup plus.
C'est humain.
Mais ils reçoivent exactement le même denier. Honnêtement, j'ai envie de hurler avec eux quand je lis ça. C'est la destruction pure et simple du concept de méritocratie. À quoi bon s'épuiser toute la journée si le gars qui débarque à la dernière minute, frais comme un gardon, obtient exactement la même chose ? Ça semble profondément injuste.
Je comprends tout à fait. Mais si on relie ça à la vue d'ensemble, cette frustration, cette indignation même que l'on ressent face au récit, c'est très exactement l'effet recherché par l'orateur antique.
Il veut nous énerver.
D'une certaine manière, oui, pour nous faire réagir. Le docteur Körner souligne ici l'utilisation d'une technique littéraire très précise, appelée l'inclusion.
L'inclusion, c'est quoi ?
C'est une structure en boucle. L'histoire est encadrée au tout début et à la toute fin par la même maxime. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
Ah d'accord, le texte annonce la couleur.
Voilà, ce n'est pas un traité sur le droit du travail agricole. L'argument central, c'est que la grâce, par définition, n'est pas juste selon nos critères comptables humains. La grâce est asymétrique. Elle est d'une générosité qui frôle de scandale.
C'est vrai que si on y réfléchit froidement, en fait, le propriétaire n'a volé personne.
Pas du tout.
Les premiers ouvriers ont reçu très exactement le salaire qui avait été négocié le matin. Pas un centime de moins.
Tout à fait. L'injustice apparente ne naît pas d'un vol. Elle naît uniquement de la jalousie en regardant l'assiette du voisin. L'analyse dresse d'ailleurs un parallèle brillant avec une autre histoire très connue, celle du fils prodigue.
Ah oui, avec le grand frère.
Exactement. Le grand frère, lui, il est resté sagement bosser à la ferme toutes ces années, et il est fou de rage, mais vraiment en colère, de voir son père organiser un immense banquet pour le petit frère qui s'est comporté n'importe comment et a dilapidé tout son héritage.
Le problème est exactement le même, en fait.
C'est ça. L'humain voit toujours ses relations sous un angle purement transactionnel. Je donne tant, je reçois tant. Mais le message ici, c'est que si la divinité devait appliquer une stricte équité punitive, vraiment basée sur nos mérites réels et nos fautes, bah absolument personne ne s'en sortirait.
Et ce qui est fou dans cette source, c'est de voir que cette notion de grâce imméritée, elle passait complètement, mais alors complètement au-dessus de la tête du cercle le plus intime de ce leader humain.
Ah bah les disciples étaient largués, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Juste après cette leçon magistrale sur l'humidité, il tente le coup d'état politique ultime. On a la mère de Jacques et Jean qui s'avance pour exiger que ses deux filles soient assises à la droite et à la gauche du futur roi.
La fameuse demande des places d'honneur.
Mais utiliser sa mère pour demander une promotion, franchement, c'est quand même un peu lâche pour des meneurs d'hommes, non. On dirait des enfants.
Alors, vu de notre époque, c'est vrai que ça fait sourire ou ça paraît lâche. Mais attention, dans l'Antiquité, c'est un mouvement politique d'une redoutable intelligence.
Ah bon? Comment ça?
Les recherches montrent que les femmes âgées, surtout les mères de famille respectées, bénéficiaient d'une sorte d'immunité diplomatique officieuse.
Intéressant.
Elles pouvaient formuler des requêtes audacieuses, voire insolentes, que des hommes n'auraient jamais pu faire. Si Jacques et Jean y étaient allés eux-mêmes, ils auraient été perçus immédiatement comme des rivaux politiques pour les autres disciples. Ça aurait pu déclencher une scission, voire un bain de sang.
Donc la mère sert de bouclier.
Exactement. On voit déjà ça des siècles plus tôt dans la Bible, quand le puissant général Joab utilise une femme sage pour manipuler le roi David sans se mouiller directement. Donc, envoyer leur mère, c'était un calcul très froid, très politique, pour s'accaparer les postes clés du futur gouvernement sans risquer la confrontation directe.
D'accord, l'astuce politique est brillante. Sauf que, ils ne comprennent pas du tout à quel type de gouvernement ils ont affaire.
Ah, ça, c'est le grand drame.
Le leader leur demande s'ils sont capables de boire la coupe. Et eux, ils répondent un grand oui, super enthousiaste. Il s'imagine sans doute une immense coupe en or pour célébrer une victoire militaire autour d'un festin.
C'est là que réside l'ironie la plus tragique de tout ce passage. Dans le langage prophétique de l'époque, dans les textes bibliques, tendre la coupe à quelqu'un, ce n'est surtout pas l'inviter à faire la fête.
C'est plutôt l'inverse.
C'est lui faire boire la colère, le jugement divin, l'agonie. Le trône de ce royaume qu'il réclame, ce n'est pas un fauteuil en velours avec des dorures. C'est une croix en bois, un instrument de torture romain.
Et les fameuses places d'honneur, alors?
Eh bien, les places à la droite et à la gauche, elles ont été littéralement attribuées quelques jours plus tard. À deux brigands crucifiés de part et d'autre.
C'est glaçant.
C'est un renversement total. Le pouvoir n'est plus du tout synonyme de domination ou de privilège. Il devient synonyme de sacrifice absolu pour les autres.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que dans sa conférence, le docteur Kenner nous offre une illustration moderne, très personnelle, de ce contraste. Et ça aide vraiment à atterrir.
Oui, son anecdote est très touchante.
Il raconte qu'à l'époque où il terminait son propre doctorat, il était promis à une très grande carrière académique. Un brillant étudiant, bardé de diplômes. Et dans son quartier, il côtoyait une voisine. Une femme très humble, qui avait survécu à deux mariages marqués par un alcoolisme sévère et des violences conjugales terribles.
Une vie de souffrance, oui.
Une vie extrêmement difficile. Et pourtant, malgré des conditions matérielles précaires, cette femme rayonnait d'une joie pure. Elle servait tout son entourage, sans jamais, jamais chercher de reconnaissance, et surtout sans aucune amertume. Et la conclusion de Kenner frappe fort. Il dit que, face à l'histoire, face à l'éternité, si on veut, ce ne sont pas les titres ronflants du professeur ou son doctorat qui pèsent lourd sur la balance de la vraie grandeur. C'est la résilience silencieuse et l'humilité profonde de cette femme.
C'est magnifique, et c'est exactement le cœur du texte. Et cette redéfinition totale de la grandeur, ce leadership basé sur le service et l'humilité, ça allait inévitablement s'écraser, mais de plein fouet, contre les immenses institutions religieuses et politiques de Jérusalem.
La collision était inévitable.
C'est le choc frontal. Et le point de rupture, l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est l'épisode de l'entrée triomphale.
Ah oui, l'arrivée dans la ville.
Imaginez la scène. Un leader populaire arrive dans la capitale au moment de la fête la plus explosive de l'année, la Pâque juive. Il y a des pèlerins partout, la ferveur nationaliste est à son comble contre les Romains. Mais au lieu de monter un destrier de guerre imposant, un étalon romain pour montrer sa force, il choisit de monter un âne.
Mais pourquoi un âne, franchement, hein ? Ça casse complètement l'image du libérateur puissant, prêt à en découdre. On dirait presque une blague.
Ça nous paraît bizarre, mais pour la foule de l'époque, c'est un message codé hyper clair. C'est délibéré. C'est l'accomplissement littéral d'une prophétie très précise de Zacharie au chapitre 9. Le texte décrit un roi, je cite, « doux montant sur un ânon ».
Mais un roi doux, on a l'impression que c'est un roi faible, non? Un roi qui va se faire écraser.
Immense. C'est un roi miséricordieux qui se soucie des pauvres et des exclus plutôt que de faire la guerre.
D'accord. La maîtrise de sa propre force. Et la foule, elle capte le message.
Oui, elle comprend très bien le symbole. C'est pour ça qu'elle l'éclate de joie en chantant le Hallel, les psaumes de libération traditionnels de la Pâque. La tension est à son comble. Et avec cette foule exaltée derrière lui, il ne va pas vers le palais du gouverneur romain. Il se dirige droit vers le centre de gravité économique et politique du pays, le temple d'Hérode.
Et là, l'ambiance bascule complètement. On assiste à une scène de nettoyage d'une violence symbolique inouïe.
La fameuse purification du temple.
Exactement. Il renverse les tables, il chasse les marchands avec un fouet. Mais pour comprendre pourquoi il fait ça, l'analyse de Kiner montre qu'il faut absolument comprendre l'architecture physique de ce temple.
C'est crucial, oui.
Ce n'était pas juste une grande église ouverte à tous où on pouvait s'asseoir où on voulait. C'était un chef-d'œuvre de ségrégation spatiale. Imaginez des cours en cercle concentrique.
Comme des poupées russes.
C'est ça. Tout au centre, le lieu très saint, inaccessible. Puis la cour des prêtres. Puis la cour d'Israël, strictement réservée aux hommes juifs. En contrebas, la cour des femmes. Et enfin, tout à l'extérieur, relégué vraiment à la périphérie, la cour des gentils, réservée aux étrangers.
Et c'est là que le problème majeur se pose.
Et pas qu'un peu. Parce qu'entre cette cour extérieure et le reste du temple, il y avait des balustrades en pierre portant des inscriptions très claires, gravées en grec et en latin. Le message audible. Tout étranger qui franchira cette limite sera responsable de sa propre mort.
Une menace de mort explicite.
Kiner fait d'ailleurs un parallèle glaçant avec la ségrégation raciale moderne du XXe siècle. C'est exactement la même logique que l'époque des fontaines d'eau séparées ou des places à l'arrière des bus.
Cela soulève une question importante. Pour comprendre l'événement, qu'est-ce qui déclenche exactement cette colère volcanique quand il renverse les tables? Ce n'est pas simplement parce que les marchands faisaient des bénéfices sur les animaux. L'enjeu est double, selon l'analyse.
Quel est le premier?
Premièrement, c'est une dénonciation féroce de l'exclusion ethnique et sociale. Le commerce super lucratif des animaux pour les sacrifices avait pris tellement d'expansion, il générait tellement d'argent, qu'il occupait toute la place disponible dans la fameuse cour des gentils.
Là où les étrangers étaient censés prier.
Littéralement, le seul espace qui leur était accordé. En envahissant cet espace précis avec leur stand, l'institution religieuse disait fondamentalement aux étrangers et aux marginaux « Votre accès au spirituel n'a aucune importance face à notre rentabilité économique. »
Ah ouais, c'est d'un cynisme absolu.
C'est pour ça qu'il cite le prophète Ésaïe en pleine action. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le « pour toutes les nations » est la clé de sa colère. »
D'accord. Donc, l'exclusion physique et ethnique, c'est le premier point. Mais les élites de l'intérieur, les prêtres dans leur cour bien protégés, eux, ils devaient se sentir parfaitement à l'abri de cette colère, non? Ils respectaient le système à la lettre, ils faisaient les bons rituels.
C'est justement le deuxième point soulevé par Kiner, la dénonciation de la fausse sécurité religieuse. Pendant qu'il renverse les tables, il leur lance une citation du prophète Jérémie en pleine figure. « Vous en avez fait un repère de brigands. »
C'est violent comme accusation?
Mais il faut bien comprendre l'image antique. Un repère de brigands, une caverne de voleurs, ce n'est pas l'endroit où les criminels commettent leur vol. C'est la forteresse bien protégée où ils se cachent après avoir volé, en se croyant intouchables.
Ah, subtil! Donc le temple est devenu leur planque.
Exactement. Les dirigeants pensaient que tant que ce bâtiment magnifique était debout et que les sacrifices rituels fumaient tous les jours, la divinité les protégerait. Peu importe qu'ils oppriment les pauvres ou qu'ils volent les veuves le reste de la semaine.
Une hypocrisie totale, quoi.
L'analyse fait d'ailleurs intervenir ici une réflexion brillante de saint Augustin formulée des siècles plus tard, au moment de la chute de l'Empire romain. Quand Rome a été saccagée, beaucoup de citoyens étaient sous le choc, car ils pensaient que leur simple appartenance nominale à la religion officielle les sauverait du désastre. Augustin leur rappelle une dure réalité. L'obéissance superficielle aux rites d'une institution ne retient jamais le bras du jugement divin face à l'accumulation systémique de ces injustices.
Le choc est total pour les autorités. En attaquant à la fois le portefeuille et la théologie de l'élite, une riposte mortelle devenait inévitable.
C'était une déclaration de guerre, ni plus ni moins.
Et c'est là que la tension explose dans une véritable guerre rhétorique, illustrée par des paraboles d'une violence inouïe. Prenez l'histoire des vignerons.
Ah oui, très parlante celle-là.
Un propriétaire loue ses terres à des agriculteurs. Au moment de la récolte, il envoie ses messagers pour chercher sa part. Mais les locataires refusent de payer et tabassent les serviteurs.
Déjà, c'est tendu.
Le propriétaire en envoie d'autres qui sont carrément assassinés. Et là, le propriétaire se dit « Tiens, je vais envoyer mon propre fils bien-aimé. Lui, au moins, ils le respecteront. » Évidemment, les locataires, voyant l'héritier, le massacrent pour voler l'héritage.
C'est tragique.
Mais franchement, d'un point de vue purement humain, tactique, ce propriétaire, il est d'une naïveté confondante. Qui enverrait son propre enfant désarmé face à des meurtriers barricadés ? C'est absurde.
Ça nous paraît insensé à nous, oui. Mais dans le contexte de la culture de l'honneur du Moyen-Orient antique, le sens est tout autre. Tuer les messagers d'un propriétaire terrien ou d'un roi, ce n'était pas un simple fait divers criminel.
C'était quoi alors ?
C'était une déclaration de guerre formelle, une sédition. L'histoire antique regorge de représailles sanglantes et immédiates pour ce genre d'affront. Kenner donne l'exemple de la garnison romaine de la forteresse Antonia à Jérusalem. Lors d'une révolte, ils avaient négocié leur reddition pacifique, mais ils ont été massacrés par les rebelles juifs dès qu'ils ont déposé les armes.
Une trahison totale.
C'était considéré comme impardonnable. Dans la parabole, cette patience apparemment absurde du propriétaire ne montre pas sa naïveté, mais elle illustre l'étendue vertigineuse de la miséricorde divine. Il laisse chance sur chance aux élites, représentées par les vignerons assassins, de changer d'attitude. Mais quand le fils est finalement tué, la patience s'épuise et la destruction devient totale.
On retrouve d'ailleurs cette même violence institutionnelle dans l'histoire du banquet de noces. Un roi invite toute l'aristocratie au mariage de son fils. Non seulement les nobles refusent de venir, ce qui est déjà gonflé, mais en plus il tue les serviteurs qui apportent les invitations.
C'est pas juste « désolé, j'ai poney ce jour-là ».
Non, non, on n'est pas dans un simple problème d'emploi du temps.
Pas du tout. Refuser l'invitation au banquet du successeur du trône et assassiner les héros royaux, c'est l'acte de haute trahison ultime. C'est dire publiquement, devant tout le royaume, au roi en place, nous ne reconnaissons absolument pas la légitimité de ta dynastie.
Donc c'est un coup d'État en préparation.
Exactement. Et la réponse du roi est donc purement militaire. Il envoie ses troupes détruire leur ville. Et ensuite, seulement ensuite, il fait entrer les marginaux, les SDF, ceux des carrefours, pour remplir la salle de fête.
Mais il y a un détail super terrifiant à la fin de cette histoire du banquet. Une fois la salle pleine de tous ces gens invités à la dernière minute, le roi repère un homme qui ne porte pas d'habit de noces. Et il le fait ligoter et jeter dans ce que le texte appelle les ténèbres du dehors.
La fameuse chute de l'histoire.
Les historiens de l'analyse précisent que les châteaux de l'époque n'avaient pas de cachot appelé « ténèbres du dehors ». On glisse très clairement du récit terrestre vers un jugement cosmique. Le message fait froid dans le dos, oui. L'invitation est ouverte à tous les marginaux, oui. La grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché.
Exactement. Le mépris total de l'hôte et l'absence d'une transformation intérieure symbolisée par le vêtement inapproprié ne sont pas tolérés, même à l'intérieur de ce nouveau système fondé sur la grâce.
Et face à ces attaques frontales, complètement acculées par ces paraboles qui les visent directement, les différentes factions de l'élite décident de s'unir pour tendre des pièges intellectuels et politiques aux leaders. Et on commence avec le piège ultime, celui de l'impôt romain.
Ah, un grand classique. Est-il...
Attendez, si on analyse ce piège, c'est diabolique.
Complètement.
S'il répond publiquement « oui, payez l'impôt », il se met à dos toute la population opprimée qui déteste l'occupation romaine. Il passe pour un collabo et perd toute crédibilité de libérateur.
Il perd sa base populaire.
Mais s'il répond « non, ne payez pas », c'est la sédition directe. Les autorités religieuses n'ont plus qu'à appeler la garde romaine postée juste à côté pour le faire arrêter sur le champ pour rébellion fiscale. Cet échec est mat, théoriquement.
C'est ce qu'ils croient, oui. Mais la parade est magistrale. Il leur demande de lui montrer la pièce de monnaie servant à payer cet impôt. On lui apporte un denier de Tibère César.
Avec la face de l'empereur dessus.
C'est ça. Il faut savoir que cette pièce portait non seulement le profil de l'empereur, mais aussi une inscription latine qui le qualifiait de divin, de fils de Dieu. C'était un objet profondément blasphématoire pour n'importe quel juif du 1er siècle. Il la regarde et demande simplement de qui est cette image et cette inscription. Ils répondent de César. Et la chute tombe, implacable. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Mais attendez, je comprends l'esquive politique. Il se défile bien. Mais fondamentalement, comment cette réponse détruit-elle vraiment le piège théologique ?
C'est là qu'est le génie absolu de la réplique. La pièce porte l'image de César. Elle a été frappée par lui, elle appartient au système économique corrompu de César. Très bien, rendez-lui sa ferraille. Mais la question implicite qui résonne instantanément pour tout auditeur juif de l'époque qui connaît ses écritures, c'est « qu'est-ce qui porte l'image de Dieu ?»
Ah, mais oui, la Genèse.
Exactement.
L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc en gros, il est en train de leur dire « Donnez votre misérable bout de métal à l'Empire romain, ça n'a aucune importance, mais donnez votre vie entière, votre être même, votre allégeance totale au Créateur. »
C'est d'une profondeur rhétorique absolue. Il les renvoie à leur propre hypocrisie. Voyant cet échec cuisant, une autre faction s'avance, les Sadduciens.
Eux, c'est une autre paire de manches.
5 premiers livres de la Bible, la Torah de Moïse. Ils rejetaient tous les prophètes ultérieurs. Et surtout, ils refusaient catégoriquement l'idée de la résurrection des morts.
Ils trouvaient ça absurde.
Pour eux, c'était une superstition ridicule. Alors ils viennent lui poser une énigme complètement tordue, basée sur la loi du Lévirat.
Cette loi qui disait que si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve.
C'est ça. Ils imaginent un scénario catastrophe. Une femme épouse un homme, il meurt. Le frère l'épouse, il meurt aussi. Et ça continue comme ça, tragiquement, avec 7 frères successifs. Et ils finissent tous par mourir, sans enfant. La question piège qu'il pose avec un sourire en coin, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme, puisqu'elle a été mariée aux 7.
Mais c'est un scénario digne d'un film d'horreur comique. La pauvre femme. Mais pourquoi ils utilisent cette histoire précise ?
Parce que c'est un piège philosophique classique de leur époque, un petit exercice intellectuel pour ridiculiser les croyants. Ils essayent de démontrer par l'absurde que la vie après la mort créerait un chaos juridique et social impossible à résoudre sur Terre.
Genre, regardez, votre concept ne tient pas la route juridiquement.
Voilà. Mais la réponse qu'ils reçoivent les pulvérise sur leur propre terrain. D'abord, il leur répond sèchement qu'ils ne comprennent rien à la puissance divine, car la résurrection n'est pas une simple continuation biologique des contrats de mariage et des lois terrestres. On passe à une autre réalité.
Il change de dimension.
Exact. Mais le coup de grâce, c'est sa preuve textuelle. Pour leur prouver la réalité de la résurrection, il ne cite pas les prophètes, puisqu'il sait qu'il les rejette.
Malin.
Il va chercher son argument en plein cœur du livre de l'Exode, leur propre texte sacré intouchable. Il leur rappelle que lors du célèbre épisode du buisson ardent, Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ».
Il ne dit pas « J'étais ».
Exactement, il dit « Je suis ». Il est le Dieu des vivants. Si les patriarches sont morts depuis des siècles physiquement, mais que Dieu se définit toujours au présent par sa relation avec eux, c'est qu'ils sont bien vivants d'une autre manière. Échec et mat sur leur propre terrain exégétique.
C'est juste brillant. Et pour clôturer toute cette série de joutes verbales, un expert de la loi, un pharisien, vient lui demander quel est le plus grand commandement de tous. Le docteur Kinner note d'ailleurs dans son analyse que des rabbins très célèbres de l'époque, comme Hillel ou Akiba un peu plus tard, enseignaient déjà que l'amour du prochain était le pilier central.
Oui, ce n'était pas une idée totalement nouvelle dans le judaïsme.
Mais ici, le leader utilise une technique rabbinique très spécifique, très pointue, pour sceller définitivement son argument.
Oui, la technique du biézar hashava, c'est un principe fondamental de l'herméneutique juive ancienne. L'idée, pour faire simple, c'est que si deux passages de la loi, même s'ils sont très éloignés dans le texte, utilisent très exactement le même mot-clé, alors on peut les lier juridiquement pour en tirer une règle suprême.
Attendez, je vais être sûr de bien capter. Donc, en trouvant le mot « aimer » dans le Deutéronome avec le fameux « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et en le liant au mot « aimer » qui se trouve dans un tout autre livre, le Lévitique « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il fusionne carrément les deux concepts.
C'est exactement ça.
Mais c'est une faille juridique géniale pour simplifier des centaines de lois hyper complexes.
C'est la synthèse parfaite. Ce qu'il leur dit, c'est que tout le reste, absolument tout, les rituels minutieux, l'organisation du temple, les lois alimentaires complexes, tout ça n'est qu'un simple commentaire de ces deux piliers indissociables. Aimer Dieu ne peut absolument pas exister sans aimer l'être humain qu'il a créé à son image. C'est le test ultime.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte ? Si on prend un peu de recul sur toute cette analyse très dense du docteur Kinner, le fil conducteur de ces chapitres est assez flagrant.
Oui, il y a un thème récurrent.
C'est une guerre totale entre deux visions du monde irréconciliables. D'un côté, on a la religion de l'apparence, avec ses privilèges, sa hiérarchie, ses murs de pierre pour exclure les indésirables et sa certitude arrogante.
Le système en place, quoi.
Voilà. Et de l'autre côté, on a la réalité intérieure, une grâce asymétrique qui choque la raison humaine, une humilité qui accepte la souffrance et une ouverture radicale, presque scandaleuse, aux marginaux. Le message martelé, c'est que les rituels extérieurs ne sauvent personne. Seule la transformation du cœur a une véritable valeur.
Tout à fait. Et le drame historique, la véritable tragédie humaine qui est mise en lumière par cette plongée dans les textes, c'est l'aveuglement stupéfiant de l'élite. Ces experts, ces prêtres, ces politiciens, ils connaissaient chaque virgule de leurs textes sacrés. Ils les étudiaient jour et nuit. mais ils ont complètement manqué la cible.
C'est fou quand on y pense. Mais pourquoi ?
Parce que leur priorité absolue n'était pas la vérité. Leur priorité, c'était de préserver leurs propres institutions, de protéger leur petit confort, leur autorité et leur statut social. Leur instinct de survie institutionnelle a littéralement étouffé, écrasé leur capacité à discerner la vérité quand elle se tenait devant eux.
Ce qui nous laisse avec une réflexion finale particulièrement percutante, je trouve. Et c'est ça qu'il faut retenir. Si les esprits les plus érudits, les plus instruits d'il y a 2000 ans ont érigé des panneaux d'interdiction, ont construit des barrières physiques et ont fini par assassiner la vérité juste pour protéger leur zone d'influence,
l'histoire a tendance à se répéter.
Exactement. La question se pose pour nous aujourd'hui. De quelle manière nos institutions modernes, qu'elles soient académiques, politiques ou même nos organisations humanitaires, sont-elles en train de répéter très exactement ce même schéma ? Sommes-nous en train de barricader jalousement les portes de nos propres cours du temple, en justifiant, avec de très très beaux discours, l'exclusion de tous ceux qui se trouvent à l'extérieur ?
C'est une vraie question.
Une idée qui, définitivement, mérite qu'on la creuse pour ceux qui nous écoutent. C'est tout pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante.